Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.
BFM Business présente.
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous J'ai dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, on est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business dans l'actualité ce soir. Sale journée, on va le dire comme ça, pour Apple qui s'est vu infliger une amende de quasiment 2 milliards d'euros par Bruxelles. Jamais Bruxelles n'avait tapé aussi fort. On va vous raconter ça, bien sûr, dans un instant. Sinon, nouveau rebondissement chez Casino, puisque le comité central d'entreprise a décidé de faire appel. Vous savez, du jugement qui avait été rendu la semaine dernière qui donnait quasiment les clés du camion à Daniel Kretinsky. On verra ça avec un syndicaliste dans un instant. Et puis, plein de choses à vous raconter. D'ici 20h, l'Allemagne qui va s'offrir une belle semaine de grève dans les transports. On voit rarement ça. Le grand raout du Parti communiste chinois qui débute à Pékin alors que la croissance bat de l'aile. Tout ça, on en parle avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure. Qui sera avec nous ce soir? Le journaliste Guillaume Duval, l'économiste Nathalie Janson et le patron de Jedi, André Lostuc-Pietri. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Donc oui, clairement, jamais Bruxelles n'avait tapé aussi fort sur Apple. Elle vient de lui infliger une amende d'1,8 milliard d'euros. Amende pour non-respect de la concurrence, cette fois, sur le marché de la musique en ligne. Alexandra Paget nous raconte ça.
Bruxelles a fini par donner raison à Spotify. En 2020, la plateforme suédoise de streaming musical saisit l'exécutif européen d'une procédure antitrust à l'encontre du géant californien, au motif qu'Apple, pour favoriser sa propre plateforme de streaming audio, Apple Music, impose des restrictions aux éditeurs d'applications et leur interdit notamment de proposer et même de communiquer autour d'autres modes d'abonnement plus abordables que les offres souscrites via l'écosystème Apple. Ce qui constitue un abus de position dominante auquel Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence, compte bien mettre fin.
Nous avons ordonné à Apple de revoir ses dispositions anticoncurrentielles et de s'abstenir de telles pratiques dans le futur. À partir de maintenant, Apple devra permettre aux développeurs d'applications de streaming musical de communiquer librement avec leurs propres utilisateurs.
Un message puissant envoyé par la Commission, c'est la première fois qu'elle sanctionne Apple pour infraction aux règles de la concurrence. La firme a immédiatement fait appel de cette décision.
Voilà, grosse amende pour Apple infligée par Bruxelles, Alexandre. Rapagé avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité également de ce lundi, il y a donc le dossier Casino avec un nouveau rebondissement. On rappelle que la semaine dernière, la justice avait validé le plan de sauvegarde qui donnait les clés du camion en quelque sorte à Daniel Kretinsky. Sauf que le comité social d'entreprise a décidé de faire appel de ce plan aujourd'hui. Les syndicats aussi, ils estiment que tout le volet social n'est pas traité et que 6 000 emplois sont toujours menacés. Écoutez Thomas Meyer pour l'UNSA du groupe Casino.
Nous ne pouvons pas imaginer une seule seconde que la direction et le consortium mené par M. Kretinsky n'aient pas préparé un plan de continuation, car ils savent très bien que ce plan de sauvegarde accéléré n'est pas valable. Il est absolument irresponsable de leur part de ne pas avoir pensé, préparé un plan de continuation. Pour nous, c'est inimaginable. Alors de plus, cette espèce de chantage à la liquidation judiciaire faite aux juridictions et aux instances représentatives du personnel est purement scandaleux. Aujourd'hui, il appartient à Casino et au consortium d'assumer le défaut de validité du plan et de présenter, dans les plus brefs délais, s'il le faut, en redressement judiciaire, un plan de continuation.
Voilà Thomas Meyer, délégué syndical INSA du groupe Casino, cet après-midi à Paris. Dans l'actualité des entreprises, il y a donc Jiffy qui a de grosses difficultés financières, qui cherche à rééchelonner sa dette. D'après l'agence France Presse, elle espère sérieusement trouver un accord dans les prochaines semaines. Elle continuerait en tout cas, en l'état, de payer ses salariés et ses fournisseurs. 19h05, dans l'actualité, le Parlement qui était donc réuni à Versailles, qui vient donc de voter il y a quelques instants l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG, 50 ans après l'adoption de la loi Veil. Il faut savoir qu'il y a encore 230 000 femmes en France qui avortent tous les ans, sauf qu'apparemment le sujet reste véritablement tabou, y compris dans le monde de l'entreprise. Astrée Olivier.
C'est même la double peine pour les femmes salariées qui recourent à l'IVG. En plus de l'intervention médicale, elles perdent de l'argent. Car si de courts arrêts maladie sont souvent prescrits dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse, ces jours ne sont pas forcément pris par les femmes salariées. Et pour cause, un délai de carence d'en moyenne 3 jours. 3 jours pendant lesquels la Sécurité sociale ne verse donc pas d'indemnité. Dès lors, le recours au congé payé ou au RTT est plus fréquent. La législation a bien évolué pour les fausses couches. Depuis janvier, des arrêts maladie spécifiques sans délai de carence sont délivrés. L'élargir aux IVG pourrait donc être une piste, selon l'avocate pénaliste Louise Boulet.
Instaurer un congé IVG, ça serait aussi envoyer un message politique fort. C'est toujours un sujet subversif, et ce, d'autant plus dans le milieu de l'entreprise. Et pour que ça cesse, ça doit passer par le droit. Un congé dédié, ça légitimerait les femmes dans l'exercice de ce droit fondamental au sein de l'entreprise.
Certaines entreprises françaises ont d'ailleurs sauté le pas, c'est le cas du spécialiste de l'informatique LDLC. Mais signe que prendre un tel congé est perçu comme stigmatisant, aucune femme de l'entreprise ne l'a encore sollicité.
Astrée Olivier, on voulait vous dire un mot d'immobilier aussi, parce qu'apparemment ce qui remonte du terrain depuis quelque temps est assez bon. Les banques se détendent. Elles ont de plus en plus tendance, depuis le début de l'année, à accepter de plus en plus de prêts. C'est un changement apparemment. Marie-Cœur de Roy.
Les refus de prêts, c'est de l'histoire ancienne, ou presque, en témoignent les chiffres du courtier Vous Financez. Ici, l'an dernier, on était sur plus d'un tiers de demandes de crédit refusées, 34% précisément. Depuis le début de l'année, on est passé à moitié moins, environ 18% de dossiers refusés. Plus spectaculaire encore chez le courtier Caspi. Là, on est carrément retombé depuis le début de l'année à seulement 6% de demandes de crédit qui ne sont pas acceptées par les banques. Et ce n'est pas anodin qu'en ce moment, les établissements bancaire communique sur une volonté de réexaminer les refus de prêts de ces dernières semaines, car elles y ont tout intérêt, d'où leur nouvelle politique bancaire, une baisse de taux constatée depuis le mois de janvier et de plus faibles exigences en termes d'apport personnel. Très concrètement, quand on fait encore malheureusement partie de ces refus de crédit, le plus intéressant n'est pas d'aller chercher à négocier avec sa propre banque, mais bien de faire jouer la concurrence. Selon le courtier Vous Financez, les écarts de taux n'ont jamais été aussi élevé. En ce moment, par exemple, la banque la moins généreuse propose du 4,9% d'intérêt sur 20 ans, quand une autre banque propose pour ces mêmes profils sur les mêmes durées 3,6%. C'est dire l'intérêt d'aller faire jouer la concurrence.
Marie-Cœur de Roy, on a des mauvaises nouvelles en provenance de la mer Rouge. On a appris aujourd'hui qu'un cargo qui avait été visé il y a 15 jours par des rebelles houthis avait tout simplement coulé il y a quelques heures, avec à bord quand même quelques 20 000 tonnes d'engrais à base de sulfate d'ammonium. Cela présente un risque pour l'environnement, a déclaré fort justement l'armée américaine. Et puis le Bitcoin, qui est pas loin de battre un nouveau record. C'était 69 000 dollars en novembre 2021. Là, on est aux alentours quasiment des 67 000 dollars. Le Bitcoin est remonté récemment à la vitesse de la lumière. Est-ce que ça va continuer encore longtemps? Question sans réponse, mais on l'a quand même posée au cofondateur de la plateforme Ledger, Eric Larchevêque. Écoutez son analyse.
Est-ce que ça va continuer de monter? Est-ce que ça va continuer de descendre dans les prochains jours? Honnêtement, j'en sais rien. Et personne ne le sait. À long terme, on est, et je suis évidemment complètement haussier, et ma prédiction des 100 000 euros avant la fin de l'année, pour moi, tient toujours. C'est un petit peu l'objectif que j'avais fixé. Et sur le reste, je pense que là, c'est envolé, un petit peu précipité, et à mon avis, dû au fait que, historiquement, on n'a jamais vu aussi peu de liquidité de Bitcoin sur les places de marché. Et donc ça, forcément, je pense que ça a un impact, un comburant, un accélérateur qui fait que là, on a vraiment dépassé les prévisions possibles.
Voilà Eric Larchevêque, cofondateur de Ledger, qui, vous l'avez entendu, table quand même sur les 100 000 dollars sur le Bitcoin d'ici la fin de l'année. On suivra ça, évidemment, tous les jours sur BFM Business. 19h09. On va sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Petite hausse pour débuter la semaine, plus 0,28% pour le CAC 40. 7 956 points. Clémence Tanguy est avec nous depuis Euronext. Bonsoir Tanguy. Clémence, comment ça se passe depuis du côté de Wall Street?
Très légère baisse. Hein. Les marchés US reprennent leur souffle aujourd'hui. Hein. Alors le Nasdaq, lui, est à moins 0,18 à 16 245 points. Le S&P 500, lui, est à plus 0,01%. Mais enfin, on rappelle quand même que l'indice US emblématique a fini en hausse 16 fois sur les 18 dernières semaines, ce qui n'était quand même jamais arrivé depuis 1971. La bourse salue la résilience de l'économie américaine. Hein, et elle consolide ses positions avant des rendez-vous macroéconomiques de premier plan cette semaine, notamment l'audition de Jerome Powell devant le Congrès mardi et mercredi, ou encore bien sûr les chiffres de l'emploi américain vendredi. Parmi les valeurs à retenir, on peut citer Nvidia, bien sûr, hein, en hausse de près de 5%, qui a dépassé largement les 2000 dollars de capitalisation boursière, ou encore Supermicro Computer, qui bénéficie de son arrivée prochaine dans le S&P 500. Il remplacera Whirlpool. Le titre de la société spécialisée en serveurs pour l'IA a progressé de plus de 25% aujourd'hui. Un petit mot sur le pétrole, hein, qui se stabilise. Hein, le WTI est à 78 dollars. Le Brent est à 82 dollars. Une stabilisation après que l'OPEP ait annoncé une réduction de sa production pour maintenir les prix.
Merci beaucoup Clémence. Clémence Tanguy donc à Euronext pour BFM Business. Il est 19h11. On revient dans un instant avec nos experts. Beaucoup de choses à voir ce soir avec eux. L'Allemagne qui va s'offrir une belle semaine de grève dans les transports, un peu façon France. La Chine avec le grand raout du PC chinois qui débute alors que la croissance bat de l'aile. Et puis l'Europe qui apparemment la veut accélérer dans la défense. Il y aura pas mal d'annonces du côté de la Commission notamment cette semaine. Tout ça plus bien autre chose évidemment jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15 sur BFM Business. Ils sont là, nos experts du soir, jusqu'à 20h. Enfin, ils sont là en ordre dispersé. Même après la fin du salon de l'agriculture, c'est encore difficile apparemment de se mouvoir dans Paris. Mais ils vont arriver petit à petit. Guillaume Duval est avec nous en tout cas. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bienvenue, ancien rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Nathalie Janson, professeur d'économie à Neoma Business School, va arriver dans un instant. Et puis André Lostuc-Pietri, président de l'agence Jedi, sera avec nous également dans quelques secondes. Ben le voilà, entrez cher André. Entrez, soyez le bienvenu, André Lostuc-Pietri. Bonsoir André. Président de l'agence Jedi qui œuvre au quotidien pour que l'Europe reprenne le leadership sur les innovations de rupture, qui plaide pour la création d'une DARPA européenne. Voilà, on rappelle à chaque fois l'histoire. Ça va être très ambitieux. On y arrivera au fur et à mesure. Et donc Nathalie Janson qui va nous rejoindre dans un instant. On a beaucoup de choses, messieurs, ce soir dans l'actualité. À commencer par l'Allemagne quand même. On voulait en dire un mot, qui va s'offrir une belle semaine de grève là dans les transports. Du côté de la Lufthansa, du côté de la Deutsche Bahn, avec des revendications qui portent à la fois sur des augmentations de salaire et sur une réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne, là, Guillaume ? On a l'impression d'être de moins en moins dans le pays du compromis social, dans la cogestion allemande. Qu'est-ce qui se passe chez nos voisins allemands, finalement, aujourd'hui ?
Oh, c'est pas tout à fait nouveau, en ce qui concerne, en tout cas, les deux professions que tu évoques, ouais. les pilotes d'avion et les chauffeurs de train. Ce sont des professions qui sont organisées avec des syndicats particuliers.
Oui.
Donc ce qui fait la force et la stabilité du modèle allemand pour le reste, c'est qu'il y a un seul syndicat par branche.
Oui, oui.
Et là, ce sont des petits syndicats, mais qui tiennent des positions stratégiques. Ce qui se passe, c'est qu'en Allemagne, ça va assez mal sur le plan économique. Oui, hein, donc il y a de la perte de pouvoir d'achat, des difficultés industrielles importantes. Et donc c'est un gouvernement qui est lui-même assez faible, assez divisé, etc. Donc c'est un contexte qui favorise effectivement les mouvements sociaux, mais c'est aussi le cas d'une certaine manière en France, on l'a vu avec les agriculteurs. Mais c'est vrai que pour l'Allemagne, c'est pas forcément l'image qu'on en a, mais ça dure déjà depuis quelques années maintenant.
Ça commence, oui.
Que le fait que l'Allemagne n'est plus ce qu'elle était sur ce plan-là. Ceci dit, on se trompe aussi en pensant que les syndicats allemands sont toujours gentils et prêts à faire des compromis. Hein. IG Metall, dans la métallurgie, a fait des grèves très dur, très régulièrement.
Mais là, sur la Lufthansa qui va annoncer des profits records apparemment jeudi, c'est pour ça que les débrayages vont commencer jeudi, il y a un syndicat qui est en première ligne, qui s'appelle Verdi, qui réclame quoi ? Une augmentation de salaire de 12,5%, soit un minimum de 500 euros de plus par mois. C'est la fin d'un modèle là, qui est en train de se dessiner. André Lostuc-Pietri, pour vous.
Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer. Je crois que ce qui se passe en Allemagne est très très grave. Enfin, on ne voit aucun signe.
On pose la question un peu bêtement, est-ce que c'est la France qui déteint sur l'Allemagne finalement ? Voilà,
non, mais on a l'impression qu'en fait, y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été réglés depuis pas mal d'années. Plus il y a un gouvernement, il faut bien s'en rendre compte, qui aujourd'hui, on appelle ça la coalition feu tricolore, donc avec les rouges du SPD, les verts des verts et les jaunes des libéraux. Et un peu l'image qu'on peut donner, c'est comme si les trois feux étaient allumés en même temps. Donc sur quasiment toutes les décisions de la défense, en passant par les salaires, en passant par l'immigration, il y a des points de vue très différents. Et le problème, c'est que aucun des partis ne veut céder, alors que tout commande normalement à ce que cette coalition s'arrête et qu'on revienne, on revienne aux urnes. Mais notamment le parti le plus qui aujourd'hui est le plus extrémiste, paradoxalement, qui sont les libéraux, oui, savent bien que si on retourne aux urnes, ils risquent d'être en sous la barre fatidique, ouais, des, voilà, 5%, voilà, où ils n'auraient aucun élu. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, il y a eu quand même beaucoup de concessions qui ont été faites par les salariés, notamment du secteur public, pendant la crise du Covid. Et on voit effectivement ces retours en grâce phénoménaux de notamment des compagnies aériennes. Et oui, il y a probablement un partage de la croissance qui n'a pas été très très bien fait. On a quand même... Et dernière chose, on se rend compte qu'on est dans un pays qui est en décroissance, et on se pose toujours la question, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de croissance? Alors ça sera peut-être une discussion maintenant, mais quand on n'a pas de croissance, bah, finalement la plupart des sociétés sont obligées de manager par les coûts, ouais, ce qui est toujours une spirale infernale, parce qu'on ne s'en sort que si on arrive à retrouver un chemin quelque part avec des nouveaux projets. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui.
Nathalie, comment est-ce que vous regardez l'Allemagne évoluer là? Vous dites aussi que c'est la fin d'un modèle, c'est la France qui déteint sur nos voisins allemands quelque part, ou pas spécialement?
Pas tout à fait, je pense que comme il a été rappelé, en fait le rôle des syndicats est différent. Fait des compromis, enfin je veux dire, ils ont compris que quand la situation était dure, ils ont été prêts à faire des concessions, et aujourd'hui ils veulent en fait un rattrapage de ce qui a été leur concession au départ.
C'est pas nouveau, comme disait Guillaume, mais l'impression que ça se manifeste avec beaucoup plus d'acuité désormais.
Oui, et voilà. Puis effectivement, le modèle quand même de contestation n'est pas tout à fait le même, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de grève individuelle comme en France. Oui. Hein, donc, c'est quand même, il n'y a pas les mêmes conséquences. Et puis, sans doute qu'effectivement, la coalition au pouvoir prête en fait le flanc à celui qui va faire de la surenchère. En tout cas, voilà, il y a une espèce de théorie des jeux qui se met en place pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut gagner, maximiser en fait ce qu'on peut gagner par rapport à son pouvoir de chantage qu'on peut faire peser dans la balance. Donc, je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'alignement des planètes, justement. Il y a en fait des planètes qui se font face et voilà. Ils tirent le centre de gravité.
Cela dit, je posais la question, est-ce que la France déteint? Non, vous avez cette étude de la fondation Hans Böckler qui dit plus de 80% des salariés allemands n'ont jamais fait grève de leur vie. Il y a encore du chemin pour nous rattraper, c'est ça que ça veut dire.
Je suis pas sûr que la proportion soit très différente en France. Hein.
C'est très concentré.
Enfin, je connais pas les chiffres pour la France, mais les proportions sont. Je pense qu'il y a plus de salariés qui font grève en Allemagne qu'en France globalement, notamment parce que les syndicats sont très forts et que quand ils décident de faire une grève dans une branche donnée, tout le monde s'y met, quoi.
Il y a peut-être deux choses dont on n'a pas parlé. C'est un, il y a quand même une tension sur les emplois qui est maximum, c'est-à-dire aujourd'hui, on est quasiment au plein emploi dans la quasi-totalité des régions, même à l'Est, qui pendant longtemps était quand même à la traîne. Donc il y a une pression. En parallèle, il y a des discussions.
Ça s'appelle naturellement pour une hausse des salaires.
Partie du gouvernement qui prône pour la journée des 4 jours. Il y a la semaine des 4 jours. Il y a des expérimentations qui sont en cours. Ça, c'est le point numéro un. Et l'autre point, c'est une très grande inquiétude au niveau de Allemagne SA, comme on l'appelait, c'est la désindustrialisation. Ce que nous, on a vécu dans les années 90 et 2000, ils sont en train de le vivre de manière accélérée. Il y avait un symbole terrible vendredi, l'annonce de 3500 suppressions d'emplois par BASF. Oui. C'est un peu le même symbole que nous, on a eu quand Billancourt a fermé, par exemple.
Oui, ça.
C'est aussi fort que ça.
Oui. Guillaume?
Non. Oui, enfin, il y a une conjonction un peu étonnante d'un plein emploi d'un côté et d'une situation économique et de perspectives qui sont assez mauvaises de l'autre. Et effectivement, ça donne sur le plan social des tensions très fortes. Donc les salariés veulent profiter du plein emploi tant qu'il est là pour essayer de rattraper, en particulier en termes de pouvoir d'achat, ce qu'ils ont pu perdre pendant le Covid et les dernières années.
Voilà pour ces débrayages qui vont commencer dans la semaine du côté de l'Allemagne. Est-ce que vous dites les tensions sont en train de monter en Chine? Vous savez qu'on en parle aujourd'hui parce que c'était le début il y a quelques quelques heures du grand raout annuel du Parti communiste chinois, hein, session annuelle de l'Assemblée nationale populaire qui réunit quelques 3000 députés. C'est toujours des images très, très impressionnantes. On va parler économie, notamment cette année. On aura demain le chiffre de l'objectif de croissance pour 2024, après avoir fait 5,2% de croissance l'an dernier. Pourquoi je pose parler de tension? Parce qu'il y a une crise de l'immobilier, et chômage record chez les jeunes, et des consommateurs qui ont le moral en berne. Elle va où l'économie chinoise dans cette configuration, André, pour vous?
J'aimerais être plus optimiste, pour passer d'un sujet à un autre, mais je pense d'abord que le chiffre, beaucoup de gens considèrent qu'il est totalement faux.
5,2 l'an dernier.
On est plutôt à 1,5%. D'ailleurs, beaucoup de gens se posent la question.
1,5% de croissance l'an dernier au lieu des 5,2.
C'est très difficile. La Chine est probablement un des plus payés, peut-être après la Corée du Nord, le plus fermé au monde. Rappelez-vous, depuis 4 ans, bon, ça a été fermé avec la pandémie. Mais surtout, c'était un pays qui avait l'habitude d'avoir des échanges dans les deux sens extrêmement denses. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il y avait, avant le Covid, 400 000 étudiants américains en Chine, il n'y en aurait que 4 000. Donc on est passé, ça a été divisé par 100. Donc c'est un pays qui s'est fermé. Donc aujourd'hui, avoir accès à l'information en Chine est devenu vraiment un art. Que ça soit sur le sujet économique, que ça soit sur le sujet... Donc on prend ce qu'on veut bien nous dire. Il y a également une autre chose, c'est que la plupart des organisations internationales, d'où sortent ce consensus de 5%, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, sont quand même en grande partie aussi aujourd'hui avec des représentants chinois.
Oui.
Donc on n'est pas totalement sûr de ce qu'on peut dire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le chômage des jeunes est largement au-dessus des 20%. D'ailleurs, ils ont cassé le thermomètre au moment où c'est parti à 20%. Oui, oui. Et il y a clairement un pouvoir qui s'isole. Moi, je suis très inquiet parce que je pense que Xi Jinping casse ce qui a été véritablement le succès de la Chine, qui est ce pragmatisme, cette ouverture au monde. Et aujourd'hui, on a un pouvoir qui est de plus en plus solitaire, qui ne met plus la croissance, cette espèce de pacte social qu'il y a entre le parti de 100 millions de membres avec ses 3000 représentants à l'Assemblée nationale populaire et les 1,4 milliard de Chinois. Ce pacte est brisé, avec tous les risques que ça comporte, même d'aventure un petit peu militaire.
Ah, même question, où va l'économie chinoise? Nathalie, Guillaume qui veut répondre. Allez Guillaume.
Oui, l'économie chinoise, ça fait un petit moment qu'on dit que la Chine risque d'être vieille avant d'être vraiment riche.
C'est en train de se passer.
Il y a un problème démographique qui est très important, qui est beaucoup plus important que chez nous en Europe, y compris dans d'autres pays où c'est plus difficile que chez nous. Il y a un déséquilibre majeur du modèle économique qui a été tourné excessivement vers
l'exportation.
Les exportations d'une part, l'immobilier d'autre part, et tout ça c'est fini. Plus une crise politique, non. Pour l'instant, il tient bien, mais une fermeture politique qui n'est pas favorable aux affaires, aux investissements. Les Chinois eux-mêmes ne savent pas bien où va leur pays. Alors après, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle pour le reste du monde, mais effectivement, je partage le point de vue, c'est pas forcément du tout une bonne nouvelle, parce que quand on a des difficultés économiques, sociales, internes, aussi graves que celles qu'il y a aujourd'hui en Chine et qui risquent d'y avoir demain, la tentation est très forte de l'aventure extérieure, de l'attaque à Taïwan, etc., pour rassembler le peuple derrière soi. Malheureusement, il y a des raisons. Enfin, on pense toujours l'avenir comme la prolongation du passé. Donc, tout le monde s'imagine que parce que les Chinois ont eu 30 ans de forte croissance, ils auront 30 ans de forte croissance derrière. Ça ne se passe jamais comme ça.
Nathalie, c'est la fin d'un cycle pour vous, irrémédiablement, là, du côté de la
Chine. En tout cas, on est au bout d'un modèle qui a voulu concilier contrôle et marché. Voilà.
Oui, mais alors le modèle d'après, c'est quoi?
Et ben justement, visiblement, donc voilà, le contrôle des marchés a toujours étonné, ça étonne au niveau de la conception, puisque effectivement, le marché, avec le contrôle, étant donné que le contrôle va décider deux choses qui ne sont pas forcément ce que le marché aurait choisi, on se demande toujours comment ça peut fonctionner. Et là, dans le cas de la Chine, on est vraiment là-dedans, avec lorsqu'ils ont eu les premières conséquences d'avoir laissé le marché dans certains domaines opérer et qu'ils ont vu qu'il y avait des instabilités, ils ont eu peur et ils ont refermé. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les années 2015-2016, notamment avec le marché financier, où à peine on a eu quelques cracks un petit peu, ils ont tout de suite dit « Oh là là, mon Dieu, on va protéger ». Le problème, c'est que du coup, on est sur des alternatives, enfin, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Oui. Donc eux, ils ont choisi effectivement de refermer et d'intervenir. Et là, ils sont arrivés au bout d'un autre sentier qui était d'intervenir. Ils ont aussi en fait créé leur propre bulle immobilière. Donc là maintenant, c'est retour à la base. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, effectivement, comme ils ne veulent pas embrasser le modèle social à l'européenne, c'est clair. Enfin, Xi Jinping l'a répété. Visiblement, c'est pas vraiment au programme du jour. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver? Et effectivement, là, on est un petit peu en reste.
C'est quoi l'alternative? Qu'est-ce que vous craignez le plus, André, vous, dans cette histoire? C'est le manque de cohésion sociale, c'est l'explosion sociale. Je me rappelle,
on explique toujours
qu'en fait, on mate les révoltes dans les campagnes.
Oui, parce qu'on a des gains économiques. Oui.
Et qu'il faut un certain taux de croissance pour faire baisser le chômage. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, finalement?
Non, ce qui m'inquiète, c'est la conséquence pour nous. Parce que il faut bien voir que la croissance chinoise, pendant 20-30 ans, c'était un tiers de consommation interne qu'ils essayaient désespérément de faire monter. Aujourd'hui, elle ne va pas monter parce que, à nouveau, la Chine vieillit très vite, donc les gens thésaurisent. Oui. En plus, tout leur patrimoine accumulé dans l'immobilier et dans les marchés boursiers a subi un coup. Il y avait un tiers, c'était l'exportation. Là aussi, les exportations vont pas très très bien parce que le reste du monde n'est pas très flamboyant. Pensez à l'Allemagne. Pensez même à des chocs extérieurs, type ce qui se passe dans la mer Rouge actuellement, et pas du tout une bonne nouvelle pour les Chinois. Et l'autre tiers, c'était l'investissement. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le tiers sur l'investissement, qui est aujourd'hui le seul ressort sur lequel s'appuie Xi Jinping, qui avant allait vers l'immobilier, aujourd'hui va vers l'industrie. Et donc, pourquoi je dis que c'est une mauvaise nouvelle pour nous? Parce qu'il y a en plus une déflation qui se profile en Chine. Et donc, on risque d'avoir une Chine beaucoup plus compétitive sur certaines industries clés. Pensez notamment aux véhicules électriques, pensez aux batteries. Et je pense qu'on est à la veille, sans être un oiseau de mauvaise augure, à la veille d'un déferlement de produits industriels chinois sur l'Europe, notamment, qu'on commence déjà à voir dans les batteries, hein, deux tiers du marché mondial et en croissance, avec une vraie inquiétude sur nos propres projets d'investissement industriel.
Qu'est-ce que vous craignez aussi, Guillaume? Quelques secondes pour conclure.
C'est une crainte, c'est déjà une réalité. Hein, donc il y a des surcapacités phénoménales en Chine, et ça ne peut que se terminer. Enfin, pour l'instant, le marché américain est maintenant assez fermé aux produits chinois. Il y a beaucoup de pays du Sud qui sont ouverts aux produits chinois malgré tout, mais c'est vrai que la principale exportation des Chinois aujourd'hui, c'est l'Europe. Ouais. Donc on risque, enfin, si on veut préserver notre industrie, il va falloir réagir. Là où la grande difficulté, elle est géopolitique, hein, c'est au moment où on s'affronte avec les Russes déjà, si on s'affronte vraiment durement avec les Chinois en même temps, ça risque de resserrer leur alliance et de ne pas faire forcément nos affaires, notamment en Ukraine.
Nathalie ?
En fait, y avait une analyse dans le Financial Times en fait, qui partageait pas, enfin, qui n'était pas dans ce sens-là, justement. Il n'y avait pas de doute sur le fait qu'ils avaient une stratégie industrielle qui pouvait nous menacer, mais ils disaient qu'au contraire, ils étaient hyper et très, très conscients du fait qu'il ne fallait pas qu'ils heurtent. Et que c'était ça, en fait, ce qui allait se jouer dans ce congrès. C'est en tout cas, voilà, après, moi je vous livre.
Non, Kyo, je sais pas, vous fait réagir.
Non, ils sont sûrement conscients des difficultés qu'ils ont, mais en attendant, ils ont les surcapacités, elles sont.
Oui,
là,
mais eux,
il faut bien que ça sorte. Hein.
Oui, mais justement, ils ne veulent pas provoquer la fermeture.
Ou alors
ils savent que déjà les États-Unis sont fermés, ils ne veulent pas la même chose en Europe.
Je crois que c'était dans ce même FT ou dans The Economist où il y avait un schéma qui montrait qu'aujourd'hui les capacités de production juste sur les batteries étaient le double de ce que le marché chinois pouvait aujourd'hui absorber.
Et
penser à une société comme BYD qui, vient de commander 5 ou 6 cargos qui est capable de transporter plusieurs milliers de véhicules électriques d'un coup. Donc ils produisent eux-mêmes leur capacité de transport vers l'Europe.
Comme dit Guillaume, il faudrait bien que ça se déverse quelque part à un moment donné tout cela. Voilà. 19h31 sur BFM Business.
BFM Business, l'info éco.
19h31, je vous redonne les grands titres de l'actualité. Jamais Bruxelles n'avait tapé aussi fort sur Apple. La commission vient d'infliger à l'Américain une amende d'1,8 milliard d'euros, amende pour non-respect de la concurrence sur le marché de la musique en ligne. C'est Spotify qui avait porté plainte il y a quelques années. Apple a déjà fait savoir qu'il allait faire appel de cette décision. Un nouveau rebondissement dans le dossier casino, puisqu'on a appris que le comité social d'entreprise centrale avait décidé de faire appel du jugement rendu la semaine dernière par la justice. Vous savez qu'elle avait tout simplement validé le plan de sauvegarde du groupe qui marquait la reprise
de casinos, entre autres par Daniel Kretinsky. L'enseigne Jiffy est en grande difficulté financière. Elle cherche à rééchelonner sa dette, d'après l'agence France-Presse. Elle espère quand même trouver un accord dans les prochaines semaines avec ses créanciers. Elle continuerait en tout cas en l'état de payer ses salariés et ses fournisseurs. Et puis mauvaise nouvelle, on parlait de la mer Rouge. On a appris qu'un cargo qui avait été visé là-bas il y a une quinzaine de jours par des rebelles houthis avait coulé, avec à bord quand même quelques 20 000 tonnes d'engrais à base de sulfate d'ammonium. Cela présente un risque pour l'environnement, a déclaré à juste titre l'armée américaine. 19h32, on vient dans un instant avec nos experts, on va parler de l'Europe de la défense. Apparemment ça va accélérer et puis on va parler de cette grande question qui nous a tenus en éveil tout le week-end. À partir de combien on est riche en France ? On parlait d'une question, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h35, les experts sont là jusqu'à 20h. Nathalie Janson est avec nous, Guillaume Duval est avec nous, André Loscruc-Pietri est avec nous. Alors question, l'Europe doit-elle, va-t-elle accélérer en matière de défense, avec la perspective bien sûr de la réélection de Donald Trump à l'automne prochain. Alors je vous parle de ça parce qu'il va y avoir des annonces cette semaine. Mercredi, Bruxelles présente son plan pour renforcer son industrie de défense. Et puis demain, mardi, c'est Thierry Breton qui va présenter, lui, des mesures pour faire en sorte que l'Europe passe en économie de guerre. Écoutez Thierry Breton ce matin, sujet, tiens.
Nous devons passer en mode économie de guerre pour l'industrie de défense, afin de pouvoir à la fois fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin, mais aussi pour nous, pour notre propre sécurité. C'est absolument indispensable. On voit ce qui se passe aux États-Unis. La plupart des membres de l'Union européenne, comme vous le savez, 23 pays, sont membres de l'OTAN. On a entendu les propos de Donald Trump. Donc tout le monde maintenant a conscience en Europe, j'allais dire enfin, parce qu'il était temps, qu'il était absolument indispensable de reprendre notre destin en main et donc notre base industrielle. Il faut que notre base industrielle, elle soit prête. On est dans un monde de plus en plus hostile, de plus en plus difficile, on le voit tous les jours, hélas, et l'Europe doit prendre de plus en plus son destin en main.
Oui, mais c'est pas nouveau non plus, ça, quand même.
Non,
comme constat.
C'est pas vraiment nouveau.
André, vas-y.
Il y a une partie suivante de l'entretien avec Thierry Breton qui est un peu plus embarrassante, qui est la discussion avec votre confrère sur, mais finalement, il y a un an, on avait promis 300 000 munitions et on n'en a livré qu'un million et le commissaire s'en sort en parlant donation, vente, etc.
Ça arrive pas, en fait.
Alors, d'un côté, il y a une vraie volonté de le faire et tant mieux. Mais on a envie de se dire, à nouveau, on a un petit retard à l'allumage. Il faut bien voir dans quelle situation on est. Nous sommes en mars, il va y avoir des élections en juin, une nouvelle commission qui sera prend opérationnelle au mieux fin de l'année janvier 2025. Donc le plan qui va être présenté risque de ne pas être mis en œuvre immédiatement. Ça, c'est une chose. Donc on aimerait quelque chose qui soit présenté demain, qui soit immédiatement actionnable. La deuxième chose, il faut pas non plus... j'achète tout ce qui a été dit. Les deux choses qui sont prévues, semble-t-il, de ce qu'on sait demain, c'est des achats communs,
oui,
avec exemption de TVA, notamment. Bon, très bien. Et de préparer des stocks pour ne pas être pris ou dépourvu. C'est le fameux combat readiness, donc être prêt au combat. J'ai envie de dire, la chose qu'on aurait dû faire, qu'on devrait déjà faire avant, c'est est-ce qu'on est clair sur nos objectifs stratégiques ? Parce que si on n'est pas clair sur les objectifs stratégiques, on va faire plein d'opérations un petit peu tactiques comme ça, mais on risque d'avoir les mêmes problèmes qui vont se reproduire avec des crises dans le futur qui sont forcément différentes des actuelles.
Il y a ce chiffre qui ressort là, qui pique aujourd'hui, quasiment 75% des achats militaires européens se font auprès de sociétés non européennes.
Oui, c'était ce que souligner en particulier, c'est-à-dire que on a un problème, on n'a pas dépensé assez pendant 30 ans dans ce domaine, mais en plus, quand on dépense pas européen pour l'instant, et ça c'est un problème difficile à régler. On le voit à chaque fois qu'il y a des projets communs, notamment entre la France et l'Allemagne, ça foire au moins
aujourd'hui,
une fois
tous
sur deux.
Tous les programmes sont en stand-by.
Donc on a un vrai souci, donc c'est ça qu'il faudrait... Enfin, il faut... investir, dépenser plus pour la défense, malheureusement. Ouais. Poutine nous y oblige. Mais il faudrait surtout réussir à dépenser vraiment ensemble et en achetant européen. Et ça, c'est pas sûr qu'on y arrive, notamment parce que ça nécessiterait non seulement de la volonté politique, elle est peut-être là maintenant, mais aussi des sous. Et ceux-là, ils sont pas là. Je suis très étonné que on a réussi à faire des choses face à au Covid. Oui. On a réussi à s'endetter en commun face au Covid. On réussit pas à s'endetter en commun alors qu'on est dans une situation encore beaucoup plus difficile avec la guerre en Ukraine et les menaces russes. On est dans une situation où l'économie va mal dans toute l'Europe. Si on doit prendre sur les budgets d'éducation, de santé pour investir davantage sur la défense, ça va très mal se passer partout. La seule solution, ce serait de s'endetter en commun, et ça me paraîtrait tout à fait légitime dans ce contexte-là.
Ça a marché pour le Covid, je ne sais pas si ça marche.
Mais ça ne fait pas partie, je crois, des propositions qui seront accepté demain.
Nathalie.
Oui, non, tout à fait. Je pense que là, ça fait quand même. C'est une faiblesse qu'on a depuis longtemps. Et là, pour une fois, on peut pas dire que Donald Trump, il ait fait. Pour une fois, il a dit un truc intelligent, quoi. Donc, effectivement, c'est quand même un sujet qui traîne depuis longtemps en Europe, le fait qu'on n'ait pas des défenses plus que ça européennes. Et il y avait déjà eu des discussions. À l'époque du Donbass en 2014, qui en fait ont rien donné, et c'est ça qui est terrible.
Les budgets ont augmenté.
Oui, ils ont augmenté, mais on aurait dû être beaucoup plus clair, justement. On aurait dû avancer davantage sur une défense européenne mieux structurée. Or, on l'a pas fait. Et c'est vrai que là, malheureusement, on va encore agir dans l'urgence. Et c'est ça qui est quand même un peu désolant, je trouve. Et avec effectivement tous les dysfonctionnements qu'on peut constater, avec le fait que les aides arrivent, mais que c'est le bazar et qu'en fait elles arrivent pas comme il faut. Donc c'est à nouveau. On voit que l'Europe manque en fait de fluidité, de détermination et de fluidité dans ses objectifs.
Un gros retard à l'image. À cause de quoi ? À cause de l'Europe en général ou à cause de l'Allemagne qui a quand même traîné des
Non, je pense que c'est l'Europe.
Je crois qu'on a d'abord un sujet de réalisme. Oui. Je prends deux exemples très, très concrets. On va renforcer le mécanisme du Fonds européen de défense. Mais enfin, tous les gens qui connaissent le sujet savent aujourd'hui que c'est une espèce de monstre bureaucratique où la plupart des pays ont mis plutôt les programmes qui n'étaient pas les plus stratégiques dans ce fonds. Donc déjà, soyons pas... L'autre cas d'absence de réalisme, c'est ce qui se passe en ce moment sur la mer Rouge. La mer Rouge, aujourd'hui, ça c'est un des grands transporteurs mondiaux qui me disait ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, a un potentiel d'inflation sur l'économie européenne de 1 à 2%. C'est peut-être en haut de la fourchette, cette rupture, c'est le fait qu'aujourd'hui, il faille passer par le cap de Bonne-Espérance.
Oui, vous gagnez perdu 15 jours, quoi, grosso modo.
C'est 7 000 de plus à faire, c'est énormément de coûts pour tout ça. On y envoie 3 frégates pour sécuriser 500 000 de côtes, dont une frégate allemande qui vient par chance d'éviter de tirer sur un drone américain. Donc dans la rubrique pieds nickelés, pardonnez-moi, on ne fait pas mieux. Non mais... Et c'est célébré comme un succès. Alors, c'est vrai qu'il faut célébrer ça parce qu'avant, il n'y avait rien. Mais une réponse 4 mois après les premiers tirs des Houthis, avec 3 frégates pour...
Ça, c'est la célébrer... force de sécurisation des Européens.
Oui, c'est le fameux programme Aspides. Oui, il faut arrêter de se raconter des histoires. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est l'absence de vision stratégique commune. On parlait de l'Allemagne. Nous, on a envoyé... Enfin, les Français ont envoyé des missiles qu'on appelle des SCALP. Oui. Les Allemands ne veulent pas aujourd'hui, le chancelier s'oppose fermement à livrer un missile à peu près équivalent qui s'appelle le Taurus. Donc on voit bien que sur un champ de bataille, on n'a pas la même vision stratégique. Comment vous voulez faire des achats communs si on n'a pas la même vision ?
Guillaume Duval dit qu'il faut faire des achats communs,
sur l'Allemagne, il faut être prudent, hein, parce que les Allemands, ils vont envoyer cette année 8 milliards d'euros de soutien militaire à l'Ukraine. La France en a envoyé depuis 2 ans 3 milliards. Hein. Donc là,
3 milliards 6 d'après le ministre.
On joue pas du tout dans la même catégorie. La France produit 30 000 obus de 155 par an. L'Allemagne, elle en produit 700 000. Hein. Donc s'il y a des gens qui traînent les pieds aujourd'hui sur la défense et qui traînent les pieds en particulier vis-à-vis de l'Ukraine, même si notre président a eu des propos très martiaux il y a quelques jours, pour l'instant c'est plutôt les Français que les Allemands hein, sur l'ensemble. C'est vrai sur les taux russes, il y a un problème particulier. sur ce type d'armes. Mais pour le reste, les Allemands font le boulot pour soutenir les Ukrainiens et pas les Français.
Bon, à suivre donc les annonces demain, Thierry Breton et de Bruxelles, mercredi, sur accélération de constitution, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est l'Europe de la défense. Quelques minutes pour deux petits sujets. Alors, les taux de crédit, on revient en France, là, on change un peu d'univers, les taux immobiliers qui connaissent une baisse. On est repassé en dessous des 4% sur les crédits à 25 ans. Est-ce que ça vous inspire un commentaire ou pas particulièrement, Guillaume? Vous dites ça se détend. Ou c'est encore bien...
C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise, parce que ça veut dire aussi que les perspectives, enfin ce que les financiers espèrent dans le futur comme perspectives économiques sont pas florissantes. Hein.
Non.
Si on espérait une forte croissance dans le futur, les taux d'intérêt à long terme seraient plus importants.
On dit que les banques commencent à se calmer un petit peu, à se décrisper, à recommencer à octroyer plus de prêts, notamment depuis le début de l'année. Là. C'est ce qu'on nous dit visiblement.
Je pense que les banques, elles ont fait face à la montée rapide des taux d'intérêt, elles ont essayé de faire en sorte de s'en tirer le mieux possible. Donc elles ont joué un scénario relativement du pire pendant un moment pour essayer de minimiser les potentielles expositions. Maintenant, effectivement, comme on est plutôt dans, finalement, la récession n'a pas été aussi grave que prévu. Bon, effectivement, les prévisions sont pas terribles, mais c'est pas non plus la catastrophe. Donc ils se disent que la Banque Centrale Européenne, elle est dans un scénario, elle sait pas encore trop quoi faire, mais on ne semble pas avoir comme à faire face à une remontée, à une continuation de la remontée des taux. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un peu un tassement de ces taux, puisque les taux à long terme étant, puisque là on parle du 25 ans, oui. Donc comme les taux à long terme ne sont pas non plus voués à augmenter, alors effectivement peut-être pour des raisons qui ne sont pas très glorieuses, puisque le taux à long terme est censé refléter la productivité voilà, dans le temps. Donc effectivement, on préférait que ce soit mieux, mais bon, c'est aussi en lien avec. Enfin, on va retourner vers une situation dans le long terme. On pense qu'il y aura moins d'inflation, donc on retourne vers des taux plus normaux.
André, bah vous qui connaissez bien l'Allemagne, comment ça se passe chez nos voisins allemands sur le front immobilier? Je sais pas, vous voulez nous indiquer quand on se compare toujours. Hein,
Alors l'Allemagne a connu c'est là où on voit que nos pays finalement ont des cycles très différents. L'Allemagne a connu une vingtaine d'années de hausse de prix de l'immobilier absolument considérable. Ouais, l'Allemagne pendant très longtemps, je sais pas où sont les images là que vous projetez, mais était pendant longtemps, par exemple, le centre de ville de Berlin à l'aube des années 2000 était à 2000-2500 euros le mètre carré pour les plus beaux objets. Donc on était à la moitié, parfois un tiers des prix parisiens. Tout ça s'est énormément rattrapé avec à nouveau la démographie qui revient, un pays qui a quand même un vrai enjeu démographique sur le long terme, et donc une chute aujourd'hui qui est assez prononcée. Donc ça, c'est la situation en Allemagne. Mon seul point sur le sujet des taux ici en France, c'est que, alors on est dans l'anecdote, mais justement, j'accompagnais quelqu'un qui achète un bien immobilier aujourd'hui, et j'ai été fasciné par la file d'attente qui était, enfin, il y avait 50, 60, 70 personnes.
À l'achat, hein.
À l'achat.
Oui, à l'achat, oui.
Et il y a tout simplement plus de biens à la location. Donc, si ce mouvement-là permet un tout petit peu de détendre cette crise immobilière, cette crise du logement, qui est quand même une crise sociale majeure potentielle, ça va dans le bon sens.
Bon, est-ce qu'il faut attendre que le gouvernement prenne enfin le sujet à bras-le-corps? On n'a pas l'impression que c'était vraiment une priorité depuis quelques années,
en particulier sur le logement social. Il a fait qu'une seule chose, c'est de piquer des sous aux HLM pour renflouer ses caisses par ailleurs. Mais...
Parce qu'on a considéré à une époque que le logement coûtait trop cher en France. C'était ça un peu le credo depuis 2017. Rappelez-vous, les APL, c'est parti très très vite dès l'été 2017. Quelques minutes, 3-4 minutes pour vous demander si vous êtes riche. Mais pour commenter cette étude qui a beaucoup fait causer depuis la fin de semaine dernière, étude de l'Observatoire des inégalités qui nous dit, en France on est riche quand on gagne quasiment 3 SMIC net mensuel, c'est-à-dire 3860 euros par mois. Ce qui pose des questions, c'est la méthodologie, parce qu'on s'intéresse pas au lieu d'habitation, on s'intéresse pas au patrimoine éventuel par ailleurs. Voilà. Comment est-ce que vous regardez ça, cette étude? Est-ce qu'on est riche à 3860 euros net par mois quand on est une personne seule, quel que soit l'endroit où on habite en France? Guillaume.
Les statistiques sont imparables sur ce plan-là, enfin, sous les réserves que vous émettez, mais oui. C'est effectivement le seuil, mais c'est pas du tout ce que les gens perçoivent, c'est vrai. Ils n'ont pas le sentiment d'être riches quand ils gagnent 3800 euros, mais par rapport à la population française dans son ensemble, c'est vrai qu'on appartient déjà à ceux qui sont les mieux rémunérés quand on est au-delà de ce niveau-là. C'est aussi le résultat d'une politique française qui a été menée avec beaucoup de continuité depuis 30 ans pour favoriser le développement des bas salaires. Donc ça fait 30 ans qu'on essaye de pousser les gens vers le SMIC en abaissant les niveaux de cotisation sociale à proximité du SMIC. Donc c'est pas étonnant qu'on soit devenu un pays de SMICards, parce que c'est ce qu'on a cherché à faire depuis 30 ans. Et donc ça se traduit par le fait qu'effectivement, dès qu'on gagne 3 800 euros, on sort du lot.
Est-ce qu'à 3 860 euros, on est riche ou on est plus riche que beaucoup d'autres Français? C'est la nuance et de taille quand même, Nathalie.
Alors pour se réconforter, voilà, je sais que ça réconfortera personne, mais j'en discutais avec un collègue à l'étranger qui me disait qu'une étude du Foreign Policies disait qu'on faisait partie des 1% les plus riches mondiaux lorsqu'on gagnait 40 000 dollars par an. Donc effectivement, on est tout le coup, on y a beaucoup plus de gens riches en France qu'on le pense que cette étude finalement. Voilà. Donc si on veut se réconforter, on peut regarder le côté pire. Et si on regarde effectivement du côté de la France, oui, je suis assez d'accord. Effectivement, on a quand même un salaire qui est tiré plutôt vers le bas. Donc on est riche effectivement à des seuils qui, pour les gens qui touchent cette somme, ils n'ont pas l'impression d'être riches. Mais ça,
regardez la définition du mot riche dans le dictionnaire.
Exactement.
C'est qui possède
L'impôt sur le revenu, on regarde par une petite fenêtre, et effectivement, on ne prend pas en compte tout le patrimoine qu'on a pu hériter, transmis. Je pense que c'est quand même le patrimoine dont on a hérité qui joue quand même beaucoup aussi dans la balance.
C'est français comme ça de vouloir quantifier la notion de richesse.
Oui, je pense que c'est très.
André.
Oui, alors ça reste un indicateur. Moi, je rajouterais à ce débat la notion de comparaison, parce que c'est très bien de parler de la France, mais il faut aussi voir que on est dans un bloc européen et dans une zone, on va dire, occidentale. Il faut rappeler que à peu près le PIB par habitant aux États-Unis en Europe est à peu près le même.
Ouais.
En 2000, on est à 30% en dessous par habitant. Hein. Alors on me rectorquera et à juste titre qu'on a des protections sociales qui n'ont rien à voir, mais c'est juste le décalage, 30%. Et si on se compare même avec nos amis suisses, c'est 50% de décrochage en 20 ans. Et ça fait mal quand on passe la frontière. Bon.
Nous sommes très relatifs.
Donc on ne va pas aller skier en Suisse.
Non, on ne va pas aller skier parce qu'en Suisse. Non, c'est sur la méthodologie, effectivement, qu'on a fait. Sur la notion de vouloir toujours quantifier la notion de richesse et puis dire comme ça, d'affirmer 4 860 euros net pour une personne seule.
Moi, ce qui me peine beaucoup, c'est que la notion d'un. Vous vous souvenez, l'indice du bonheur avait fait Florès il y a 10 ans, on n'en parle plus beaucoup.
Non, c'est terminé en macro. Ouais. C'était un sujet à un moment donné très florissant, mais en France, en fait, on n'en parle plus. Parce qu'on n'aime pas le bonheur en France, peut-être.
Non, je ne sais pas, Guillaume, il faudrait se référer à un autre indice, peut-être, pour vous.
Enfin, alternatives économiques, on avait beaucoup travaillé là-dessus.
Oui.
Ce serait important de relativiser tous ces indices purement monétaires. Hein. En particulier, il y a un élément qu'on ne prend jamais en compte, c'est le travail domestique.
Oui, exactement.
Le travail domestique des femmes, pour l'essentiel. Oui. Donc, une des différences avec les États-Unis, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de services qui sont achetés aux
États-Unis. Qui sont externalisés, complètement.
Dans les foyers, donc c'est pas tout à fait comparable sur ce plan-là.
De quoi est-on riche? Qu'est-ce que la richesse? Voilà, ça ferait un bon sujet de philo. Ça est déjà tombé en fait.
J'imagine.
Immanquablement. Voilà pour cette étude de l'Observatoire des inégalités qui est donc parue avant le week-end et qui a fait beaucoup causer. Il nous reste 3 minutes. C'est l'heure de l'extra time comme tous les soirs. Vos humeurs du soir, coup de gueule, coup de cœur en 30 secondes. C'est la règle impitoyable de cette séquence. Nathalie, allez, est-ce que vous voulez entamer?
Un petit coup de cœur, je suis un peu monomaniaque, parce que mon petit coup de cœur, il va à la fois... il va à nouveau à Milei, parce que du coup, on a entendu peu parler de Milei. Ah. Et en fait, il y avait un petit article sympathique, toujours dans notre Financial Times, mais également j'avais entendu sur une autre radio concurrente un matin, qui était plutôt effectivement positive, entre guillemets, parce qu'en France, on a bien aimé taper sur lui. Et en fait, il se trouve qu'effectivement, après ces quelques mois d'accession au pouvoir, il a réussi à ramener le budget à l'équilibre et à baisser l'inflation mensuelle. Et il table en fait sur ça pour essayer de convaincre les plus pauvres que bientôt ça va s'améliorer pour eux, parce que c'est le gros problème en général.
Donc vous êtes emballé par les premiers.
Les premiers mois sont pas trop mal.
Fort de ravir Milei à la tête de l'arbre de Guillaume, non? Je sais pas.
Vous êtes, vraiment non.
Pas vraiment, non. Je sais pas.
Ça c'est autre chose. Non, mais simplement pour. Moi, ce que je voulais évoquer, mais c'est un sujet qui est dans l'actualité aujourd'hui, c'est
allez, 30 l'inscription, secondes pour
l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Non seulement pour le sujet lui-même et ce que ça représente, en particulier pour les droits des femmes, mais aussi pour ce que ça montre de la capacité des Français, finalement, de réussir à s'entendre,
oui,
même à des majorités relativement larges, sur des sujets a priori difficiles. Donc, quand on veut, on peut y arriver. Et je trouve ça assez intéressant qu'on y soit arrivé sur ce sujet-là. J'aurais pas parié pour ça il y a un an.
Commentaire là-dessus?
Non, moi je ne suis pas emballée.
Vous n'êtes pas emballée?
Non, j'aurais préféré que ce soit le droit des enfants et des femmes qui soient inscrits et pas l'avortement. Ah. Voilà. Je suis plutôt pro-vie, mais pas anti-avortement, attention. Mais oui, j'aurais préféré que ce soit ça qui soit constitutionnalisé.
Voilà, pour vous, un coup de gueule. Commentaire sur les premiers mois de Ravier-Mileille ou pas? Non, André, pas spécialement. Non, il vous a emballé.
Non, je voyais un ami investisseur qui vient d'acheter avec une dizaine d'autres 50 000 hectares au sud de l'Argentine en disant je suis assez impressionné par les premiers pas de Mileille, c'est ce qu'il disait. Et en plus, je suis très inquiet des perspectives sinistres des démocraties par rapport à ce bloc Chine-Russie qui se constitue, et finalement l'Argentine sera peut-être un havre de paix dans ce... Donc voilà, ça c'était un petit peu inquiétant, mais pour lier les deux sujets.
Bon, on refait un bilan en quelques mois, du bilan des premiers mois de Javier Milei à la tête de l'Argentine. Voilà, 19h54, c'est terminé. Merci beaucoup d'être venu, Nathalie Janson, professeure associée à Neoma Business School, Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef d'Alternatives Économiques, et André Loscut-Pietri, président de l'agence JEDI, qui œuvre au quotidien pour que l'Europe reprenne le leadership sur les innovations de rupture. Merci André, merci Nathalie, merci Guillaume, à très vite avec plaisir, 19h54. Dans un instant, les équipes de Tech & Co, de François Sorel, Tech & Co jusqu'à 21h30 sur BFM Business. Et nous, on se retrouve demain, 18h en direct pour Nouvelles Aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.